Il faut bien situer le jugement de sagesse se situe donc ayant découvert l'existence de Dieu. Et nous regardons tout dans cette lumière. Et nous essayons de découvrir la première distinction. Dieu est absolument simple. Il y a des distinctions en lui, notre manière de le connaître. Mais il n'y a pas de séparation. Il est simple. Où se situe la première division dans l'être? On avait toujours dit, et il y a quelque chose de vrai, il ne faut pas le considérer comme faux. La première distinction dans tout être créé, c'est la distinction entre essence et existence. La scolastique le répétait force avec force. Dans tout être créé, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Alors, est-ce qu'au fond, je regarde tout de suite l'être créé comme être, ou je regarde premièrement dans un jugement de sagesse l'homme? Parce que c'est ça qui m'intéresse avant tout. Toute ma philosophie, c'est pour connaître Dieu. Et quand je connais Dieu, c'est pour connaître l'homme. Je ne connais parfaitement l'homme qu'en connaissant Dieu. Et je ne fais pas ma philosophie premièrement pour savoir ce que c'est que le crapaud. Ça m'intéresse, mais ça ne m'intéresse pas à un point où je m'efforce à faire toute ma philosophie pour le crapaud. On connaît mieux le crapaud sans regarder la philosophie, simplement en disséquant le crapaud. Faire les cuisses de crapaud. Donc, la première distinction, c'est par rapport à l'homme. Et si je découvre l'existence de Dieu, la première chose que je considère, qu'est-ce que ça va me dire de l'homme? Et je crois, je cherche, parce que, au fond, la philosophie n'a jamais fait ça. Hein. On s'est tout le temps arrêté à l'existence de Dieu. On a regardé vaguement les qualités de Dieu, parce qu'il y avait le Dédéono de Saint Thomas. Mais le Dédéono de Saint Thomas est théologique, il n'est pas philosophique. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc le jugement de sagesse, c'est ayant découvert l'existence de Dieu, dans la lumière de cette existence de Dieu, qu'est-ce que je peux dire de nouveau et de premier sur l'homme? Alors, je crois que cette première distinction, je crois bien, c'est la distinction nature et personne. Cette distinction-là, alors, cette distinction-là, la première fois que je l'ai fait, c'est pas dans un jugement de sagesse. Alors c'est ça que je voudrais essayer avec vous de montrer. La différence du jugement de sagesse avec la différence première. Quand j'ai découvert en premier lieu qu'il y a une distinction entre la nature et la personne, génétiquement, la première fois où je crois, c'est en éthique. en éthique, et c'est à propos de l'amour d'amitié. L'éthique doit tout de suite chercher quelle est la première finalité de l'homme. Je ne suis pas dans ce chemin de sagesse. Hein. La première finalité de l'homme, c'est l'amitié. Et l'amitié me montre tout de suite la différence entre la personne amie, l'ami, et sa nature. Sa nature a peut-être des quantités d'épines. Distinctes de ma nature, il y a l'individuation au niveau de la nature. J'ai un ami, mais un ami qui n'a pas du tout reçu la même éducation que moi. L'amitié est au-dessus de ça. Je peux, au point de vue amitié, aimer profondément quelqu'un qui est totalement différent de moi, à la différence de l'amour d'amitié du mariage. Parce que aimer d'amitié quelqu'un qui a reçu une éducation totalement différente de la mienne, ce sera très difficile de faire un foyer. Quand l'amitié est libre par rapport aux cultures, par rapport aux manières qu'on a été élevé, elle est au-dessus ça. J'aime une personne. Cette personne, les parents pourront dire, mais tu es fou, mais je ne vois pas comme elle est différente de toi, c'est sa faute chose. Je l'aime. On ferme le bec aux autres. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Cette personne a quelque chose d'unique pour moi. Je l'aime. Donc, vous voyez, la première distinction de nature et personne, c'est dans le mystère, je dis, le mystère humain. Le mystère humain, qui n'est pas un mystère, sans être rigoureux, non, mais qui est un mystère pour les parents. L'amitié. Ça, c'est... Oui, le jeune homme de... Aujourd'hui, le jeune homme de 21 ans s'en va dans un grand voyage et il revient avec une fiancée qu'il aime, de culture totalement différente et de chapeau totalement différent. Ses parents disent « Mais tu es fou !» L'amitié. L'amitié à ce dépassement de la nature. Ah, ça, c'est très net. Et je crois que c'est le premier dépassement, c'est dans l'amour d'amitié. C'est du reste très beau, parce que ça montre que l'amour d'amitié dépasse la nature. C'est le premier dépassement. Et on voit que pour le mariage, étant donné que le mariage, c'est le retour à la nature, hein, avec le point de vue de la fécondité, ça c'est la nature, c'est pas la personne. Et ce sera très dur, par exemple, quand justement on apprend, on n'a pas vu qu'il y a une fécondité. La personne demeure. Et en tant que personne et amitié, ça n'a pas d'importance. Mais au point de vue mariage, ah. Et vous voyez, la première distinction et devant laquelle l'amitié est obligée de s'incliner, il y a infécondité. Et ça, c'est la nature. C'est pas la personne. Parce que la génération, c'est la finalité de la nature. Et distinguons bien la distinction de la finalité de la nature et la finalité de la personne. La fécondité n'est pas la finalité de la personne. C'est l'amitié. Et la finalité de la nature, c'est la fécondité. Donc, tout de suite, en éthique, et quand on ne fait pas cette distinction-là, on a des gros pépins. On a des choses qui font que on a même des divorces et des séparations. Combien de séparations après mariage entre hommes et femmes, on s'aperçoit de la fécondité. Et vous voyez, et on voit qu'au fond, il n'y avait pas une véritable amitié. Il y avait la nature. La passion est-elle de la nature ou de la personne? Quand un garçon vient vous dire « Je suis passionné, cette fille, elle me trotte dans la tête. Je l'aime passionnément. » Est-ce que c'est la personne ou la nature? C'est très important, ça. Ça peut être très bien de la personne, et puis ça peut être très bien de la nature. Oui, alors la passion vous fait dépasser toute cette diversité. Je m'en fiche pas mal, je l'aime passionnément. C'est elle que j'aime. C'est pas sa tribu, c'est pas sa famille, c'est elle. Et donc, c'est la passion. Ça peut être la passion, mais ça peut être aussi la personne. C'est pas si comment que ça, vous voyez, de discerner à ce moment-là nature-personne. Et pourtant, il peut y avoir les deux. La personne peut aimer l'exotique, quelque chose de tout à fait en dehors de la bourgeoisie familiale, et on l'a fait craquer en menant au cœur de la famille quelqu'un qui n'est pas du tout de la famille. Et l'originalité d'un artiste, ça arrive. Quand il se marie, il pense à la nature, mais c'est l'art qui est en lui, pas savant. Et au fond, il aimera passionnément quelqu'un d'exotique. Quand il s'agit de la famille, je n'ai pas pensé, on s'aime, c'est pas si mal. Et la finalité de la nature n'est pas respectée. Alors, on dira, tous les gens autour diront, oui, ça va durer un certain temps. Attendons que ça s'arrête. Parce que la passion, c'est un certain temps. La personne, c'est pour toujours. Là, vous avez donc déjà en éthique, vous devez faire, c'est forcé, l'éthique n'existe que si vous avez fait la distinction entre la personne et la nature. Parce que l'éthique n'existe que lorsque vous avez découvert l'intention de vie. Or, l'intention de vie, c'est la personne. La finalité, toute intention regarde la finalité. Donc, la distinction nature-personne se trouve premièrement, génétiquement, dans le problème de la personne, de l'amitié, je veux dire. L'amitié a ceci de particulier, c'est que c'est le premier dépassement de la nature. C'est très intéressant de dire ça. C'est le premier dépassement de la nature. Et on ne voit jamais ça quand on voit l'amitié. Alors qu'au fond, je crois que c'est très important. Et parce qu'il y a des tas de choses qui peuvent s'expliquer. Avec les parents. Les parents voient très fort la nature. Il faut fonder un foyer. Tu as l'âge, je vais t'enseigner. Il faut fonder un foyer. Et fonder un foyer, bon, il faut se marier. Et se marier, autant que possible, faut bien se marier. C'est pas l'amour. Prenez. Vous savez, on en rencontre tout. Moi, j'ai rencontré une fois un garçon que je connaissais bien et qui m'a demandé de bénir son mariage. Alors j'ai voulu voir quand même, connaître un peu son amour pour sa fiancée. Mais il se mariait pour la convertir. Mais ça, je me marie pour la convertir. Alors je lui ai dit, alors je ne bénis pas votre mariage. Alors là, elle était stupéfaite. Et croyait apporter quelque chose de génial. Et que je dirais tout de suite, oui, c'est bien, c'est très bien. Quand il m'a dit, j'épouse cette fille parce qu'elle a une vie impossible et je veux la convertir. Alors je lui dis non, je ne te marierai pas si tu as cette intention vis-à-vis de cette fille. Alors il a été demandé au curé, le curé évidemment n'a pas poussé loin, il l'a marié. Un an après, ils sont revenus tous les deux. Alors il a dit, vous voyez bien que j'ai bien raison de ne pas vous marier, de bénir votre mariage. On se marie quand on s'aime. D'un amour d'amitié. Et on doit être farouche là-dessus. Quand il n'y a que la passion, ou au contraire l'apologétique, convertir quelqu'un, c'est très beau de convertir quelqu'un, je suis tout à fait d'accord, mais pas par le moyen du mariage. Ce n'est pas un donc. Première distinction nature et personne, c'est l'amitié. Ce n'est pas les vertus. Alors, vous voyez, c'est très intéressant. Ce n'est pas les vertus. Les vertus de tempérance, les vertus de force, c'est pas la question de la personne. C'est l'éducation de la nature. Vous éduquez la nature quand vous essayez d'être les vertus. Vous voyez, les vertus, c'est la nature, et c'est pas l'amitié. Et l'amitié, c'est la personne. Aristote ne fait pas la distinction parce qu'il ne pouvait pas la faire. Nature et personne, il n'était pas encore fait. Mais ça aide beaucoup à regarder l'amitié quand vous faites des actions naturelles, personne. Alors, première distinction. Ensuite, est-ce que vous retrouvez la distinction nature et personne en faisant la philosophie de la nature? Non. La philosophie de la nature étudie la nature. La philosophie du vivant. Ah. Est-ce que la philosophie du vivant vous permet la distinction de la nature et de la personne? La philosophie du vivant, c'est la philosophie de l'homme, pas du crapaud. Tout de suite. Pourquoi? Parce que vous connaissez la vie comme homme. Et donc, la philosophie du vivant va tout de suite vous donner, grâce à la finalité, une distinction entre nature et personne. Je verrai que l'homme, au point de départ, est très dépendant de sa nature. Vous avez une certaine pédagogie pour éduquer un enfant et pour garder sa nature, en voyant sa nature individuelle, en voyant tout l'atavisme de l'enfant. Et vous êtes attentif, si vous êtes un bon éducateur, à l'éveil de sa personne. Et quand se fera-t-il cet éveil de la personne? Au point de vue philosophie du vivant. Cet éveil de la personne se fera du côté de la finalité. Parce que je vois qu'il y a deux manières de saisir la finalité. Une manière purement naturelle et une manière propre à l'homme. L'homme est en effet un animal assez perfectionné, le roi des animaux. Et Dieu a voulu ça. Dieu a voulu ça et a permis, vous voyez, que par l'évolution, on croit expliquer l'homme. Mais c'est vrai que la nature humaine fait de l'homme le roi des animaux. Point de vue générique, c'est la nature. Et je vois chez des petits animaux le développement du concupiscible, le développement de l'irascible, qui sont assez proches. Je vois chez des grands animaux le singe, des choses assez semblables, analogie de similitude avec le singe. Vous voyez l'analogie de similitude par le bas, l'analogie de similitude par le haut. Par le bas, c'est l'homme et le singe. Par le haut, c'est l'homme et Dieu. C'est très curieux. C'est en ce sens que l'homme est à l'horizon de deux mondes. Animal et du monde divin. Donc, il y a distinction entre nature et personne par la finalité proprement humaine et la finalité proprement spirituelle. Ah. Vous voyez ? Donc c'est très différent que le point de vue éthique. Le point de vue éthique, la distinction se prenait à partir de l'amitié. C'est différent et c'est en même temps semblable. Quelque chose de semblable. Je distingue la nature et la personne. Je les distingue par la finalité. C'est que ma finalité naturelle est dépendante de ma nature. La finalité humaine est dépendante de moi-même comme personne. Je suis capable de réfléchir sur ce pourquoi j'existe. Et en voyant ce pourquoi j'existe, je dépasse ma nature. Je vois que j'existe pour quelque chose de spirituel. Et je dépasse l'amitié. Je peux regarder la finalité à partir de ma nature. Ça oui. Tout à fait le droit, mais je peux regarder aussi ma finalité à partir de ma personne. Je ne suis pas prisonnier de ma nature. Je vois des quantités de personnes, des quantités d'hommes, disons, des quantités de femmes, sont prisonnières de leur nature. Et je vois au contraire des quantités d'hommes et quantités de femmes qui dépassent leur nature. Ah, ça, c'est très grand. Et c'est très important, cette distinction-là. Je vois qu'il y a donc deux, je l'ai déjà dit plus d'une fois, mais je le répète ici dans cette perspective-là. Je vois donc qu'il y a une découverte de ma finalité au niveau nature et une découverte de la finalité au niveau personne. Si je ne fais pas cette distinction-là, je n'arrive pas à comprendre que la finalité découverte par la personne dépasse ma nature. Je suis un être qui, pour la nature, n'est pas commode du tout, puisque je peux, par ma personne, dépasser ma nature. Donc, je suis un être désagréable pour la nature. C'est vrai. Déjà l'amitié et beaucoup plus la contemplation. Toute la vie de mon intelligence, toute la vie de mon cœur, suivant l'intelligence, dépasse la nature. Et c'est pour ça que la scolastique a dit il y a deux objets de l'intelligence. Un objet naturel et l'objet propre à l'intelligence. Alors la scolastique disait, l'objet naturel de l'intelligence, c'est la quiddité des choses sensibles. L'objet propre de l'intelligence, c'est l'être en tant qu'être. Ça, c'est pas si bête, mais ils auraient pu le montrer que c'était justement nature et personne. Et ce serait peut-être pour nous un moyen de sauver la scolastique, de sauver la métaphysique, de montrer nature et personne. Quand vous restez uniquement au niveau nature, vous n'atteignez jamais la métaphysique. Il faut découvrir la personne. La personne, c'est mon intelligence qui est capable de saisir l'être. Ceci est. Quand je dis ceci est, je suis au-delà de la personne, au-delà de la nature. C'est ma personne. La personne naît, au point de vue philosophique, consciemment. Alors, vous voyez, ces deux voies sont très intéressantes à voir. Au point de vue éthique, ma personne naît avec l'amitié. Au point de vue spéculatif, la personne naît avec le jugement d'existence. Le jugement d'existence ne peut pas s'expliquer au point de vue nature. Et c'est pour ça que tous les positivistes, qui sont des naturalistes, ne voient pas ce que c'est que le jugement d'existence. Parce que pour eux, l'intelligence est faite uniquement pour découvrir la nature des choses, la quidité, c'est-à-dire la nature des choses. Elle n'est pas faite pour découvrir l'être. Dès que vous découvrez l'être avec votre intelligence, en disant « ceci est », je t'ai déjà dit, c'était tellement amusant, d'une certaine manière, à la Sorbonne, de voir le jury très étonné, de voir que des frères formés par Aristote, la philosophie d'Aristote, revenaient toujours sur le jugement d'existence. Alors, il y avait un examinateur qui me regardait tout le temps, puis qui regardait l'examiné. Et il dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par votre jugement d'existence ? L'examinateur, passant la vue, ne comprenant pas ce que c'est que le jugement d'existence. Donc, il comprenait l'intelligence comme raison faite pour saisir la nature des choses et non pas l'être. Et ça, c'est très important de faire la distinction. Donc, on fait la nature, on fait la distinction entre nature et personne. La personne est intelligente. La nature, en tant que nature, est intelligente. Mais mon intelligence naturelle ne quitte pas la quidité des choses sensibles. Et mon intelligence personnelle pose le chemin d'existence. Ça, c'est très important pour nous. Parce que ça nous permet de comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Mais quand saint Thomas fait cette distinction qu'il y a pour l'intelligence humaine deux objets, la quidité des choses sensibles, c'est-à-dire saisir la nature des choses, c'est-à-dire saisir le genre et la différence spécifique, et puis l'être, ceci est. Vous avez donc l'univocité et l'analogie. Et ça repose sur la distinction nature-personne. Donc, la vie, la philosophie de la vie, me conduit nécessairement à distinguer nature et personne. En me montrant que, en effet, j'ai deux finalités. j'ai une première finalité, engendrer des enfants. C'est la finalité première de ma nature, en tant que nature. C'est la fécondité. La fécondité est la finalité de la nature, de la nature, du vivant. Aristote dit cette phrase, il faut être parfait dans sa nature pour engendrer. Seul le parfait engendre. Quand la nature n'est pas arrivée à la perfection, elle ne peut pas engendrer. Donc, le sommet de la nature comme nature, c'est la fécondité, la procréation. Mais ce n'est pas le sommet de la personne. La personne a comme finalité l'amitié et la contemplation. C'est à partir de là qu'en philosophie du vivant, je distingue nature et personne. J'arrive en métaphysique. Après la philosophie du vivant, j'arrive en métaphysique. Alors, en métaphysique, à quel moment se fait la distinction entre nature et personne ? Posez-vous le problème. Puisque moi, tout le temps. Eh bien, en métaphysique, on est tout de suite au-delà de la nature. Puisque c'est regarder l'être en tant qu'être. Et la nature n'est pas l'être en tant qu'être. Tandis que la personne intelligente, c'est l'être en tant qu'être. Et c'est la métaphysique. Donc la métaphysique ne peut se comprendre qu'au niveau personne. Ça, c'est capital. Elle ne peut pas se comprendre au niveau nature. Tout de suite. Puisque la métaphysique est une, découvre la substance et non pas la nature. La nature, elle est principe du mouvement. La substance est principe d'être. On est au défaut de l'être. Et la philosophie, la métaphysique, saisit l'acte. C'est-à-dire la finalité de la personne. L'acte. Et la finalité de la personne, c'est ou l'acte d'amitié ou l'acte de contemplation. Et troisièmement, dernièrement, je découvre l'existence de Dieu. Ayant découvert l'existence de Dieu, je vois que la première distinction que je fais en tout être créé, il y a une distinction entre la nature et la personne. Donc, qu'est-ce que j'ajoute dans ce jugement de sagesse ? Qu'est-ce que j'ajoute à la métaphysique? Qu'est-ce que j'ajoute à la philosophie de la nature? Qu'est-ce que j'ajoute à l'éthique? Quand je dis en jugement de sagesse, en toute créature, il y a distinction, donc l'homme en tant que créature, il y a une distinction entre nature et personne. quand je dis ça au point de vue sagesse, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la recherche de la causalité finale, de la causalité formelle, n'est jamais ultime. La recherche de la causalité finale est seule utile, ultime. Voilà ce que j'ajoute. Et ça, c'est très important. Parce que je montre alors combien la métaphysique seule touche ce qu'il y a d'ultime en moi comme créature. Et ce qu'il y a d'ultime en moi comme créature, c'est premièrement la distinction de la nature et de la personne. Et donc, cette distinction de la nature et de la personne doit se comprendre parfaitement à partir de la causalité formelle, à partir de la causalité finale. En causalité formelle, ma nature humaine, comme nature humaine, elle est parfaite. Comme nature. Je suis un être vivant. Donc, il y a une immanence en moi. Mais cette immanence ne peut pas être finale. Il faut la causalité. Il faut la causalité de la fin. Qui peut seul me faire découvrir ce qu'il y a d'ultime. Et là, je distingue entre l'ayance dans la fin et la fin elle-même. L'ayance dans la fin, enteleteia. La fin elle-même, telos. Voilà ce qu'apporte le jugement de sagesse. Il apporte une précision très nette entre nature et personne. Pour montrer de fait, quand je suis au niveau de l'être, donc dans la vision de sagesse, l'être premier, Dieu, au niveau de l'être, il y a cette distinction première, nature, personne. Nature, dans ce qu'elle a de plus parfait, c'est l'homme. Mais la nature ne peut pas expliquer tout l'homme. Regardez. La finalité de l'homme, je dois regarder sa fin. Et donc sa personne. Ce qui me permet de préciser, et ça c'est très important, que il y a deux manières de saisir la finalité. Par la nature et par la personne. Et des quantités thomistes sont restées à la saisie de la finalité par la nature et n'ont pas saisi la finalité par la personne. Quand vous saisissez la finalité par la nature, vous la saisissez par la nature. Et c'est très curieux. Aristote montre la finalité de la nature directement ayant saisi la nature-forme. La nature-forme implique la nature fin. Et quand il s'agit de la personne, on saisit directement la finalité, sans passer par la cause formelle. Donc il y a deux manières de saisir la finalité. L'une au niveau nature, l'autre au niveau personne. Au niveau nature, je saisis la finalité à partir de la forme. Donc la forme est mesure de la fin. Quand je saisis la finalité par le point de vue de la personne, la forme est ordonnée à la fin. Je vous salue, Marie.